Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Après un siècle aux trois quarts consacré à la création et l'extension d'entreprises possédées et gérées par l'État, la fin du XXe siècle a vu la disparition progressive des entreprises publiques, des entreprises devenues progressivement, disons, incompatibles avec les principes de la libre concurrence et la liberté économique. Alors, quel avenir pour les entreprises publiques? C'est la question à laquelle l'émission Éclairage vous propose de répondre aujourd'hui, au moins apporter quelques pistes de réflexion à partir d'un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques publié aux presses universitaires de France, des travaux qui avaient été menés dans le cadre de la Fondation Saint-Gerre-Polignac présidée par Édouard Bonnefousse. Il s'agissait également d'une réflexion sur les entreprises menées dans le cadre de l'année de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, présidée à l'époque par Roland Drago. C'était en 2000 précisément, rôle et place de l'État au début du XXIe siècle. Roland Drago, membre de l'Académie, est avec nous. Bonjour monsieur. À vos côtés, votre confrère académicien, Marcel Boiteux. Bonsoir monsieur Boiteux.
Bonsoir.
Nous verrons combien votre témoignage, votre participation à cette émission est précieux, car faut-il le rappeler, vous fûtes président d'une grande entreprise publique française. Vous avez été à la tête d'EDF, en fait, pendant 20 ans. Alors, pour ouvrir ce débat, je serais tenté de vous demander à tous les deux, peut-être d'ailleurs un tantinet provocateur, l'entreprise publique a-t-elle encore un avenir quelque part dans le monde, en Europe et à fortiori en France, en dehors de la politique même des États et des gouvernements? Le principe même donc d'entreprise publique dans l'absolu a-t-il encore, si ce n'est un avenir, au moins un sens dans le contexte concurrentiel croissant à travers la planète? Monsieur Boiteux, peut-être pour commencer.
Bien, écoutez, je crois que l'entreprise publique a encore un avenir, étant bien précis qu'il s'agit de l'entreprise appartenant à l'État ou nationalisée, mais qui en même temps rend des services marchands. Il ne s'agit pas des services de l'État, il s'agit des entreprises. Mais je pense que ces entreprises ont encore un avenir parce qu'il subsistera toujours, ici ou là, des monopoles naturels. Monopole naturel qu'il est très difficile de confier systématiquement à l'entreprise privée, bien qu'il existe des procédures, genre concession, qui le permettent. Donc je crois qu'il restera quand même certaines entreprises publiques parce qu'il y a des monopoles naturels. Je vous rappelle aussi qu'il y a deux raisons pour lesquelles il existe des monopoles. C'est soit le monopole naturel, soit l'existence de coûts de transaction qui rendent la concurrence tellement coûteuse que les liens hiérarchiques sont plus économiques que les liens de marché.
Bon, voilà le décor planté, en tout cas très important, car il est vrai qu'on a l'impression en ce moment d'un total anéantissement de la question de l'entreprise publique hein, dans le débat politique qui anime ces mois d'avril et mai 2004. Nous aurons l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Monsieur Drago, alors cette entreprise publique a-t-elle encore un avenir dans le monde, en Europe, a fortiori en France? Est-ce que vous partagez les propos de Marcel
Boiteux? Oui, je les partage tout à fait. Il n'y a pas sur ce plan de contradiction entre nos opinions. L'entreprise publique, c'est celle dont le capital est soit majoritairement, soit totalement la propriété de l'État ou d'autres personnes publiques. Et par conséquent, on ne peut pas, comme vous l'avez fait en commençant, la lier à des problèmes de concurrence. D'abord parce qu'il y a le problème du monopole sur lequel on reviendra peut-être. Oui. Et ensuite parce que le fait d'être une entreprise publique avec la définition que je viens de donner n'empêche pas de se situer dans un monde de concurrence, avec néanmoins un obstacle, un objectif différent, c'est qu'aujourd'hui, le traité de Rome et à l'heure actuelle le traité de l'Union européenne pose à propos des entreprises publiques un certain nombre de règles qui viennent rejoindre les problèmes de concurrence et qui viennent rejoindre également les problèmes de services publics qui figurent, expression qui figure d'une façon un peu imprécise dans le traité de Rome et encore dans le traité de l'Union européenne. Si bien qu'aujourd'hui, en France et dans les pays de l'Union européenne, ce problème de l'entreprise publique se situe dans ce cadre du droit de l'Union européenne et c'est par rapport à ce cadre qu'on est obligé de se situer en France et bien entendu ailleurs également.
Je citais tout à l'heure votre année de travail, Roland Drago, vous avez présidé l'Académie des sciences morales et politiques durant l'année 2000. Et ce rapport, donc publié aux presses universitaires de France, est justement intitulé « Quel avenir pour les entreprises publiques ?» Pourquoi ce rapport, finalement ?
C'est-à-dire que quand nous avons la présidence de l'Académie, et M. Boiteux l'a eu une année après moi, nous avons l'habitude, d'une part, d'organiser des communications qui ont lieu toutes les semaines et que vous connaissez, et qui portent sur le thème de l'année. On choisit un thème de l'année.
Et cette année, c'est l'Europe, par exemple.
Pour ce qui me concerne, le problème de l'avenir de l'État me semblait être un problème déterminant. Et outre ces communications qui portent donc sur des problèmes de l'État et qui ont porté sous ma présidence sur la fonction législative, la fonction présidentielle, les problèmes militaires, les problèmes de justice, etc., il y a un certain nombre de colloques qui sont organisés, qui viennent se situer dans la Fondation Saint-Gerre-Polignac que vous avez citée. Et pour ce qui me concerne, j'ai choisi en premier lieu ce problème de l'avenir des entreprises publiques et en second lieu, à la fin de l'année, un autre colloque, mais qui n'a pas paru dans la même collection, sur les problèmes religieux et pour lequel nous avons tenu ce colloque dans les locaux de l'Institut.
Alors, les entreprises publiques, effectivement, ce n'est qu'un rapport, puisqu'il y en a plein, publiés tout le temps par l'Académie des sciences morales et politiques, des rapports que l'on peut découvrir, d'ailleurs, que les auditeurs de Canal Académie peuvent découvrir dans leur version écrite sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, le site internet www.asmp.fr. Monsieur Boiteux, y a-t-il réellement, je dirais même systématiquement, un lien juridique entre politique de nationalisation et la question des entreprises publiques ? Je crois qu'il est quand même toujours possible de créer ex nihilo une entreprise de ce type, non ? Mais ce n'est plus vraiment la mode aujourd'hui.
On peut parfaitement décider un jour de nationaliser une entreprise qui était autrefois privée parce qu'on considère que des considérations d'intérêt général doivent primer sur les mobiles habituels de l'économie de marché. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au début des années 80, lorsqu'on a nationalisé un certain nombre d'entreprises qui étaient antérieurement privées. Donc, on peut très bien, effectivement, aller dans ce sens. La question qui me paraît se poser, c'est de savoir si, quelle que soit la tendance de la politique, est-ce qu'il y a ou non un noyau d'entreprises qui pose des problèmes spécifiques et pour lesquels la privatisation tout simple, sans précaution, est concevable.
Roland Drago, sur ce point.
Là encore, je suis absolument d'accord. Il y a des entreprises publiques qui sont très anciennes. Prenez la manufacture des Gobelins. Elle n'a pas donné lieu à des nationalisations. Mais il n'empêche que par l'effet des circonstances, et des circonstances économiques ou politiques, la plupart des entreprises publiques dans la France, disons d'avant, il y a 10 ans, émanaient de nationalisations. Soit des nationalisations effectuées en 1936 par le gouvernement du Front populaire, exemple la SNCF ou les entreprises d'aviation de l'époque, car après elles ont changé de statut. Deuxième stade, deuxième époque, les nationalisations décidées par le gouvernement du général de Gaulle en 1945-46, l'EDF, le Gaz de France et les banques nationalisées, y compris d'ailleurs la Banque de France, qui pose un problème particulier.
Et puis il y a eu 80
et 82. Les nationalisations de 1980-81, c'est-à-dire toutes les banques, y compris des banques d'affaires, et un très grand nombre d'entreprises industrielles ou commerciales.
Donc ça, c'était sous le gouvernement Mauroy, hein, pour la phase 81-82. Alors, aspect historique, mais aussi juridique, qui sait aujourd'hui que la problématique de l'entreprise publique apparaît dans notre Constitution ? Je vous lis, il convient de rappeler que la France a dans sa Constitution un texte qui remonte au préambule de la Constitution de 1946, mais qui subsiste sans qu'il puisse être question de l'abroger. Tout bien, toute entreprise qui a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivités. Et puis vous poursuivez, Monsieur Drago, notre constitution est sans doute la seule au monde, si l'on excepte peut-être les rares États communistes qui subsistent, qui contiennent une pareille disposition. Autrement dit, l'entreprise publique est inscrite dans les gènes de la société française. Roland Drago.
Mais en tout cas, il est certain que avant 1946, il y a eu des nationalisations aussi qui se présentaient sous la forme d'une expropriation. L'expropriation, elle date de la Révolution et par conséquent, on peut toujours instituer, décider une expropriation et c'est sur cette base que les nationalisations de 1936 ont eu lieu, avec cette condition essentielle que l'expropriation suppose l'indemnisation. Il n'est pas possible dans un État démocratique comme le nôtre de procéder à une confiscation, sauf pour des motifs proprement pénaux. Et les nationalisations, aussi bien celles de 45-46 que celles de 80-82, ont été faites sous des formes d'expropriation, si l'on peut dire, c'est-à-dire que les propriétaires ont été indemnisés, avec des exceptions qui sont rarissimes pour la régie Renault, en raison même du comportement de Renault pendant la guerre. Mais quand on a créé une entreprise publique par ce biais, de toute façon, il peut y en avoir deux catégories qui sont très différentes. Les unes qui gèrent un service public et d'autres qui, au contraire, se situent dans un monde concurrentiel. Les banques qui ont été nationalisées en 1945, les quatre banques plus la Banque de France, mais la Banque de France est dans une situation particulière, les quatre banques privées qui ont été nationalisées en 1945 ont continué à vivre dans un milieu concurrentiel, même situation pour les nationalisations de 1982. Les banques qui ont été nationalisées ont vécu dans un monde concurrentiel et les entreprises industrielles ont également vécu dans un monde concurrentiel. À l'inverse, il y a des entreprises publiques aussi, mais pas nécessairement publiques, qui gèrent un service public. Elles gèrent un service public, c'est-à-dire qu'elles assurent pour l'ensemble des citoyens, la gestion de besoins qui correspondent à des nécessités d'intérêt général, le transport, l'électricité, le gaz, par exemple, pour prendre ces exemples-là.
Alors Marcel Boiteux, même question, l'entreprise publique est-elle inscrite dans les gènes de la société française? Nous avons vu la partie constitutionnelle, je dirais, de l'affaire.
Le texte que vous avez lu est à la Constitution, me frappe un peu dans la mesure où il est question d'intérêt public. Laquelle notion peut prêter à bien des commentaires, car après tout, n'est-il pas d'intérêt public d'avoir du pain dans un village de montagne? Il n'est pas nécessaire pour autant de confier la distribution du pain à une entreprise publique. Et donc je crois qu'il faut revenir à l'idée qu'a évoquée tout à l'heure notre collègue Drago et qui concerne l'utilité publique. En fait, et il est très frappant de constater que la plupart des entreprises publiques qui, elles, restent dans le noyau, sont entreprises de réseau. Parce que pour construire un réseau, il faut obtenir une expropriation d'utilité publique. Et donc on voit peu à peu, bien que ce ne soit pas une catégorie noyée, enfin la catégorie des entreprises de réseau gérant un service public, une catégorie que les juristes aiment beaucoup. Les économistes ne sont pas d'accord sur cette catégorie qui est très 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 diverse. Mais les juristes considèrent que là il y a un ensemble intéressant qui est réuni par cette notion d'utilité publique.
J'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce thème justement du noyau d'entreprise, de problématique de réseau dans le service, le secteur public. De quoi s'agit-il exactement, Marcel Boiteux?
Eh bien... Le réseau d'abord, pour l'économiste, le réseau a une caractéristique très particulière, c'est qu'il est, comme on dit, à rendement croissant, autrement dit que c'est un monopole naturel. Je m'explique, lorsque vous voulez distribuer deux fois plus de kilowattheures sur un kilomètre carré, si on se met à deux, ça coûte deux fois plus cher. Mais si on est seul et qu'on se contente de mailler un peu plus les réseaux qui existent déjà, on peut distribuer deux fois plus de kilowattheures avec un réseau augmenté seulement de 50%. C'est donc beaucoup plus économique de rester seul. C'est tellement économique que même si on est deux, il y a un moment où automatiquement, on finit par se rassembler pour être seul, ça coûte beaucoup moins cher. Et si on vous interdit de vous rassembler, ça coûte tellement plus cher que c'est absurde. Et donc le monopole naturel dû au rendement croissant se voit notamment dans les réseaux. Les réseaux sont tous à rendement croissant, qu'il s'agisse de la route, du chemin de fer, du gaz, de l'électricité. Les réseaux sont à rendement croissant. Et donc ils sont à rendement croissant, le monopole est naturel. Et dès lors qu'il y a un monopole, le monopole peut abuser de la clientèle. Et dès lors qu'il peut abuser la clientèle, il faut trouver un mode de régulation. Et donc, il y a là un domaine dont on pourra parler, si vous voulez, en détail. Il y a un domaine là dans lequel l'intérêt public retrouve en fait la notion d'utilité publique parce qu'il a fallu exproprier pour faire les réseaux.
Bien, nous marquons une première pause dans cette émission, si vous le voulez bien. Je rappelle nos deux invités, donc M. Marcel Boiteux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien président notamment d'EDF. M. Boiteux, vous avez présidé également le Centre européen de l'entreprise publique. Et puis Roland Drago, qui est avec nous également, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui fut président de cette académie en l'an 2000 et qui a à cette occasion également publié ce rapport contribution, en fait c'est un résumé de différentes contributions d'académiciens et non académiciens, quel avenir pour les entreprises publiques sous la direction de Roland Drago, et c'est à découvrir au cahier des sciences politiques, morales et politiques aux presses universitaires de France. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Vous écoutez Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Canal Académie.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Éclairage. L'émission de Canal Académie reçoit aujourd'hui deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Roland Drago et M. Marcel Boiteux, pour parler de ce sujet, quel avenir pour les entreprises publiques. C'est également l'objet d'un rapport dirigé par M. Drago et publié aux presses universitaires de France. Pour poursuivre votre propos, Monsieur Boiteux, nous parlions tout à l'heure de la politique des réseaux. Il y a le domaine d'intérêt public, évidemment, qui impose la question de monopole naturel. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu de régulation dans tout cela ?
C'est-à-dire que le problème des monopoles naturels, alors le problème des monopoles, en général, c'est que le monopoleur peut, par définition, abuser de sa clientèle. Mais alors, il faut bien se rendre compte qu'il peut y avoir le monopole du produit, mais pas, sans celui du service rendu. Donc, on va faire une petite ouverture à cet égard. Vous prenez le cas de l'électricité. Dans le cas de l'électricité, les concurrents sont tellement lointains, la bougie pour l'éclairage, le muscle humain pour le moteur fixe, et les concurrents sont tellement loin que c'est un vrai monopole à la fois du produit électricité et du service rendu. De sorte que, normalement, enfin, sans contrôle, un électricien peut vendre les kilowattheures extrêmement cher, il gardera quand même sa clientèle. Et donc, le problème, c'est qu'il faut l'empêcher d'abuser. Donc là, il y a monopole du produit et monopole du service rendu. Prenez le chemin de fer. La SNCF avait encore, et encore, tant que je sache, jusqu'à nouvel ordre, le monopole de l'emploi des rails. Mais c'est un monopole du produit chemin de fer, c'est pas un monopole du service rendu. La SNCF est concurrencée par l'aviation d'un côté, par la route de l'autre. Et donc, ses tarifs sont en fait fixés par la concurrence. Et le problème qui se pose à la SNCF, c'est pas d'éviter qu'ils abusent de la clientèle. La concurrence des autres moyens de transport fait le nécessaire. Le problème, c'est que, étant nationalisé, le déficit n'a pas de sanction. Imaginez un instant qu'une entreprise privée puisse indéfiniment accumuler des déficits sans sanction. Ça ne marcherait pas. Pour la SNCF, il n'est pas donc dans l'existence d'un monopole, même si ce monopole est un monopole de réseaux, lesquels réseaux existent grâce à l'expropriation. Le problème de la SNCF, elle est concurrencée, mais parce que c'est un service public, curieusement, le déficit n'a pas de morale. Puis vous avez une troisième catégorie, c'est les monopoles historiques qui ont cessé de l'être. Prenez le cas de l'aviation. Du temps de Mermoz, dans les années 30, il y avait un avion par semaine qui allait de Paris à Marseille. Et en mettre deux à moitié vides ou deux tout petits, c'était pas rentable. Il y avait monopole naturel par indivisibilité. Maintenant, entre Paris et Nice, il y avait 100 avions. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'exclure la concurrence ? Donc vous avez donc trois grandes catégories. Le monopole du produit et du service, l'électricité, le type. Car hors chauffage électrique, tout le reste est un vrai monopole. Vous avez la SNCF qui a le monopole du produit mais pas du service, pour lequel on ne peut pas abuser la clientèle par le biais des tarifs. Puis vous avez des anciens monopoles qu'il faut supprimer parce qu'il n'y a aucune raison de faire subsister grâce au droit ce qui a disparu au nom de la nature des choses.
Monsieur Drago, sur ce point, vous souhaitez
ajouter quelque chose ? Alors là aussi, non seulement je suis d'accord, mais je vais y introduire des notions juridiques qui vont tout à fait confirmer ce que vient de dire M. Boiteux. En fait, la notion qui est au cœur de cette question, c'est la notion de service public dont on a beaucoup parlé, un peu trop parce que tout le monde peut considérer que tout est service public. Mais à propos des phénomènes du genre dont a parlé M. Boiteux, ce procédé a été utilisé en France avec une technique juridique très intéressante qu'on a appelée la concession de service public. La concession de service public, c'était le fait pour l'État de reconnaître que une activité nouvelle correspondait à un but d'intérêt général et que par conséquent, il fallait que ce soit l'État qui exerce un contrôle quelconque sur elle, mais pas nécessairement un contrôle de propriété. Et les premières concessions de services publics ont été conférées après des appels d'offres à des entreprises privées, mais qui étaient encadrées dans un document contractuel qui leur imposait un certain nombre d'obligations qui correspondaient justement au service public. Il n'est pas étonnant de voir que les premières concessions de service public, et les seules, furent d'abord les concessions de chemin de fer, puis quand le gaz d'abord, puis l'électricité ensuite, sont apparues avec une utilisation générale, également le procédé de la concession. Et par conséquent, on voit que finalement, ces notions peuvent subsister. Et ce qui est intéressant, si vous permettez que je continue, ce qui est intéressant, c'est que le traité de Rome a prévu, dans un texte qui existe toujours, que les entreprises qui gèrent un service d'intérêt public général, c'est l'expression qui figure dans le traité. Le mot service public n'a pas été utilisé parce qu'il était trop français et qu'on a préféré avoir une expression plus explicative. Eh bien, c'est également ce caractère. Et le traité de Rome, qui affirme le principe de la concurrence, a quand même maintenu, et ce texte existe toujours, ces entreprises qui gèrent un service d'intérêt économique général. Si bien qu'à l'heure actuelle, on revient dans la pratique à propos des entreprises publiques, ou en tout cas à propos du service public, à une vision qui était celle de la France du XIXe siècle et qui, elle, comporte toujours les mêmes caractères. D'après la jurisprudence de la Cour de justice des communautés de Luxembourg, les entreprises publiques qui gèrent un service public et qui peuvent être maintenues doivent correspondre à deux critères qui étaient déjà ceux du XIXe siècle. L'utilisation du domaine public, parce que le domaine public étant étatique, on ne peut pas imaginer, sauf des exceptions rarissimes, qu'il ne soit pas géré par une entreprise qui gère un service public. Et deuxième condition, une relative carence de l'initiative privée dans un certain nombre de domaines. Et vous voyez que ces notions juridiques qui sont consacrées aujourd'hui par la Cour de Luxembourg rejoignent les explications économiques que vous avez données tout à l'heure.
Monsieur Marcel Boiteux nous donnait effectivement, mais pardon d'insister sur cette question, le concept même d'entreprise publique est-il juridiquement compatible avec l'appartenance à l'Union européenne? Parce que qui dit généralement entreprise publique dit monopole d'État, on l'a vu, or jusqu'à preuve du contraire, l'Europe aime tout sauf les positions dominantes, et les commissaires européens chargés de la concurrence, de par leur personnalité et les actions qu'ils engagent contre certaines entreprises, le rappellent quotidiennement, non Marcel Boiteux?
Dans le cas de l'électricité est intéressant à cet égard, parce que malgré cette obsession de mettre fin aux entreprises publiques monopoles, on a quand même été obligé de constater que les réseaux sont des monopoles naturels et que par conséquent, il fallait d'une manière ou d'une autre les contrôler. Alors on les contrôle soit en laissant l'entreprise publique, c'est ce qui se passe en France, ou bien par le système de la concession, mais le système de la concession pose des problèmes lorsqu'il s'agit d'investissements à très longue durée. Je peux peut-être dire un mot tout de suite là-dessus. Le principe de la concession, c'est d'assurer la concurrence au départ. Il y a un service à rendre, les concurrents se présentent et l'emporte celui qui est prêt à rendre le service dans la durée, dans les conditions les plus favorables. Prenons comme exemple le tarif. Je veux que tout le reste soit fixé, qui va faire les tarifs les plus intéressants. Il est impossible en pratique de fixer des tarifs pour 30 ans. De sorte que la concession prévoit toujours un système de révision périodique. Or, l'expérience montre que quand on a eu la concession, l'expérience montrait Quant à la concession, le renouvellement est pratiquement acquis parce que c'est très difficile d'entrer, quelles que soient les précautions qu'on a prises. D'où cette situation assez contestable, c'est que dès lors qu'on sait que quand on est entré, on l'a pour toujours, qu'on va faire fortune, on se bat pour l'avoir au départ, quitte à faire des sacrifices, notamment moraux. Il s'est passé des choses dans le domaine de l'eau, notamment, c'est que pour avoir la concession, on a accepté certains comportements, peut-être pas tout à fait réguliers. Et donc, le problème se pose. Alors, il ne se pose pas quand une concession d'autobus. Un autobus, ça s'amortit en 2 ans ou en 3 ans. On peut très bien, tous les 3 ans, remettre la concession, enfin, remettre le renouvelant la concession en concurrence. Mais quand c'est un type qui construit pour 30 ans, qui a construit pour 30 ans, alors bien sûr, on peut imaginer l'indemniser. C'était prévu comme ça en principe. Mais les textes français tels qu'ils sont, en fait, qu'il est très mal indemnisé. Et donc, la concession marche très bien pour des investissements relativement courts et marche mal pour des investissements très longs, ce qui est le cas de l'électricité. Et c'est pourquoi, en 1946, on est passé d'un système de concession à une entreprise publique qui est le concessionnaire obligatoire des pouvoirs concédants.
Alors, en fait, l'Europe impose une discipline nouvelle dans les relations entre l'État et les entreprises publiques, ainsi d'ailleurs que dans l'organisation interne des entreprises, qui transforme profondément le droit des entreprises publiques. Roland Drago.
Alors,
il y a un impact important.
Sur le plan du droit, il y avait, disons, deux grandes catégories d'entreprises publiques avec des situations intermédiaires. Les entreprises monopolistiques, qui étaient toutes des établissements public, c'est-à-dire avec un capital public intégral, et la SNCF, qui, pour des raisons historiques, était une société d'économie mixte, est devenue, en 1982 ou 3, je ne sais plus, un établissement public elle-même, avec un statut de droit public, même si elle devait, par la force des choses, quand même être soumise à des règles de droit privé pour des contrats divers passés, soit avec les usagers, soit avec ses fournisseurs. Et puis alors, d'un autre côté, dans le secteur concurrentiel, toutes les entreprises publiques avaient, sauf des exceptions que je ne vois même pas, le statut de société commerciale avec toutes les caractéristiques de société commerciale, sauf que, un, elles avaient un conseil d'administration qui était composé de façon très spécifique, tripartite, correspondant aux usagers, au personnel et à l'État, et deux, qu'elles se trouvaient quand même, et c'est peut-être leur défaut le plus grave qu'elles avaient pu avoir à cette époque, qu'elles se trouvaient quand même dans la dépendance du ministère des Finances, plus spécialement de la direction du Trésor, et qu'il pouvait alors y avoir à leur sujet, bien qu'elles fussent concurrentielles, une politique générale qui avait des éléments qui ne correspondaient pas à la concurrence telle qu'on la conçoit aujourd'hui.
Nous parlons de l'entreprise publique. Quel avenir pour les entreprises publiques ? Je rappelle que cette question fait l'objet d'un rapport publié par l'Académie des sciences morales et politiques, publié aux presses universitaires de France. Un rapport dirigé par Roland Drago, qui est notre invité dans Éclairage aujourd'hui sur Canal Académie, aux côtés de Marcel Boiteux, membre également de l'Académie des sciences morales et politiques. Marcel Boiteux, ancien président d'Électricité de France. Nous faisions tout à l'heure un petit peu d'histoire, messieurs Drago et Boiteux, je rappelle. Donc, quel avenir pour les entreprises publiques ? Vous nous rappeliez les trois périodes principales. 1936, nationalisation décidée par le Front populaire. 45-46, nationalisation d'après-guerre. Et puis 81-82, les nationalisations sous le gouvernement Mauroy. Jusqu'en 82, l'idée dominante, à la fois dans la sphère politique et dans la doctrine juridique, était que le secteur public ne pouvait que croître par création, diversification, publication et prise de participation. Peut-on dire aujourd'hui que c'était une erreur du point de vue économique et historique de voir ainsi? Marcel Boiteux.
Il se trouve que pendant des années, j'ai enseigné les mérites de l'économie de marché à l'école des Ponts des Chaussées à Supélec, même si un hasard malicieux m'a mis à la tête d'un monopole. Et donc je suis de ceux qui pensent que l'économie de marché a quand même beaucoup de mérite. Mais ayant été fortement critiqué à une époque où j'en gagnais ça, c'était pas la mode, on ne parlait que de Keynes, j'ai en même temps été amené à réfléchir aux cas dans lesquels, effectivement, l'économie de marché ne nous résolvait pas le problème, et nous nous sommes ramenés à ce que j'évoquais tout à l'heure, les monopoles naturels, dont il faut assurer la régulation. Alors, comment assurer la régulation d'un monopole naturel? C'est ça, finalement, le problème qui se pose. Et je vais prendre l'exemple de l'électricité. La régulation de la production, pas de problème. La concurrence, on peut mettre les centrales en concurrence ou les sociétés peuvent rendre des centrales en concurrence les unes avec les autres. C'est ce qu'on veut faire à travers l'Europe. Par contre, le réseau, il n'y en a qu'un. Et donc, on ne peut pas le mettre en concurrence, sauf avec lui-même. Et donc, là, il faut effectivement qu'un régulateur... Enfin, une forme de régulation règle le problème. Cette forme de régulation, c'est soit la concession, mais s'agissant d'investissements très longs, je ne crois pas que c'est une bonne solution, soit l'existence d'un régulateur, une nouvelle autorité, en principe autonome, et qui veille à ce que le gérant du réseau gère au mieux et ne rançonne pas la clientèle dans ses tarifs. Il en sera de même pour la distribution d'électricité. La distribution, c'est aussi des réseaux, c'est aussi du rendement croissant, c'est donc aussi des monopoles naturels qui vont subsister en tant que tels. Et ce qui se prépare pour la France, c'est que la production sera concurrentielle. Ce sont des sociétés plus ou moins importantes qui seront en concurrence. Le grand réseau de transport qui assure l'interconnexion à travers le pays et bientôt l'Europe, lui, il est monopole naturel. Ce monopole naturel sera à l'échelle de la France, peut-être, alors que dans d'autres pays, il y aura deux ou trois, je ne sais pas. Enfin, c'est quand même des monopoles naturels. Et à la distribution, quand sera son monopole naturel, région par région, là où existent des réseaux.
Et qui pourront, ces monopoles, appartenir à des entreprises privées?
Bien, il faudra à ce moment-là les réguler. Alors, ou bien il y a quelqu'un dans la coulisse qui dit à l'entreprise privée qui tient le réseau de distribution de Paris: j'ai étudié soigneusement vos coûts, j'exige de vous qu'il n'y ait pas plus de temps de minutes de panne par an, et je ne veux pas que vos prix dépassent tel niveau. Ben sinon, le monopole privé qui tient le réseau de Paris peut rançonner la clientèle considérablement, puisque je rappelle, la concurrence, c'est la bougie pour l'éclairage, c'est le muscle, etc. Donc on peut ramasser ce qu'on... Rappelez-vous que du temps d'EDF, les Anglais vendaient 20 à 25% plus cher l'électricité qu'en France et les Allemands 30 à 35%. Imaginez que l'État nous autorisait à vendre 20% plus cher. On aurait une fortune colossale. Et tout le monde aurait dit vraiment, cette maison est bien gérée. Mais non, on ne nous a pas permis.
Et le régulateur, l'agence de régulation, il en est beaucoup question aujourd'hui. Donc, on parle de l'ART pour les télécommunications.
Le régulateur a un pouvoir considérable.
Indépendant, donc.
Et en principe indépendant. Je crois qu'il peut y avoir des recours de droit, donc il faudra que vous nous en disiez un mot. Mais c'est quand même intéressant. Lorsqu'on a mis un régulateur en Angleterre la première fois, il savait qu'on pouvait faire des efforts, il a décidé de bloquer les tarifs, je ne sais pas, 10% moins cher qu'il existait. Au bout de 2 ans, ils avaient baissé de 20%, les gens faisaient fortune, les cours ont explosé en bourse, et on s'est dit, quand même curieux, de confier à un monsieur tout seul le soin de fixer des cours, de fixer des prix qui vont dominer les cours de bourse. Et ça me choque un peu, je dois dire, de penser, je ne sais pas ce qu'on peut en penser en droit, mais penser qu'un individu non élu a le pouvoir de faire les cours de bourse, c'est quelque chose qui me choque encore. J'aimerais que le juriste me dise ce qu'on peut en penser.
Eh bien voilà, la question est posée par M. Marcel Boiteux à Roland Drago.
Vous voyez, on rejoint, mais c'est une très bonne question, on rejoint le problème que nous avons déjà abordé, c'est qu'à propos de certaines entreprises, et c'est pour cela qu'elles ont été et resteront en partie des entreprises publiques, il y a une distinction qui est devenue fondamentale entre le support et le service. Le support du chemin de fer, c'est le rail. Le support de l'électricité, sont les réseaux. Le support des télécoms, c'est le réseau téléphonique et toutes ces transformations. Et là, on maintient, et avec l'accord des autorités européennes, on maintient la situation de monopole. Et en revanche, le service... Et là, va connaître la concurrence. C'est le cas pour des trains étrangers qui circuleront sur des rails français. D'ailleurs, c'est le cas depuis toujours, mais dans des conditions un peu différentes. Même chose pour l'électricité ou le gaz. Le support restera un support public, mais des entreprises, quelles qu'elles soient, privées, françaises ou étrangères, pourront utiliser les réseaux électriques ou les réseaux de téléphone ou les réseaux de gaz ou les conduites de gaz. Et par conséquent, cette dissociation aboutit évidemment à la création d'un organe de régulation, comme on le dit, c'est-à-dire d'une instance qui n'est pas généralement un homme seul, mais ce qu'on appelle aujourd'hui une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire une sorte de juridiction qui a beaucoup de caractère des juridictions, mais qui n'est pas une juridiction à proprement parler, qui va résoudre les conflits concernant le lien, concernant la concurrence certes, mais concernant le lien entre le support et les utilisateurs du support. Vous voyez, il y a à la base un phénomène presque physique. Et à ce moment-là, on arrive à rendre des décisions qui vont justement condamner des gens qui auront abusé ou au contraire formuler des règlements pour le fonctionnement des relations entre le support et les services.
Mais alors, pour répondre directement à la question que posait Monsieur Marcel Boiteux, donc une personne qui gère tout cela, est-ce que c'est possible, en fait, Monsieur Boiteux?
Non, je crois qu'il faut bien voir. Monsieur Drago nous indique qu'on est tellement embêté pour arriver à gérer ces monopoles qu'on a débarrassé la profession de tout ce qui pouvait être mis en concurrence pour ne laisser un monopole que le minimum. Et en l'occurrence, ce minimum, c'est le grand réseau d'interconnexion et c'est les réseaux de distribution. Mais la question qui se pose, c'est la tarification. Qu'est-ce qui va empêcher le titulaire de réseau de distribution ou le titulaire de réseau d'interconnexion d'abuser de sa clientèle en facturant des prix déraisonnables? Actuellement, c'est un régulateur, et ce régulateur a un pouvoir exorbitant. Et la question que vous posez, c'est celle-là. Alors, vous me dites, on a déjà résolu en partie le problème en élaguant tout ce qu'on peut. Alors, moi, j'ai des réserves à faire sur l'élagage, et je me pose toujours la question de savoir par quel biais, même juridique, on peut imaginer de donner à un régulateur qui va vérifier que les titulaires des réseaux de distribution de transport ne vont pas abuser de la clientèle. De leur décision dépend le cours de bourse du réseau d'électricité.
Oui, et ça, la solution, elle existe. Elle a été trouvée dans des formules qui ont peut-être leurs défauts, mais aussi des qualités, c'est-à-dire des organes collégiaux qui ont, je le répète, des pouvoirs quasi judiciaires en ce qui concerne la régulation générale, la solution des conflits et les sanctions imposées aux utilisateurs. Un peu comme l'est le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence qui a été institué en 1986 n'est pas une institution judiciaire, mais il fonctionne comme un juge. Il impose des amendes qui sont extrêmement fortes. Eh bien, la même situation va se produire avec les régulateurs pour l'électricité, pour le chemin de fer, pour les télécoms et encore peut-être dans d'autres domaines dans lesquels il y a toujours cette dissociation entre le support et le service.
En tout cas, il faut rester vigilant, Marcel Boiteux.
Oui, mais justement, nous approchons peut-être de quelques points de divergence, parce qu'il faut distinguer le régulateur de marché qui fait en sorte que le marché fonctionne le mieux possible, que la concurrence qu'on a mise en place tienne, et le régulateur tarifaire qui empêche le monopoleur d'abuser de ses prix. Ce que je dis, c'est que le régulateur tarifaire aura tellement de mal à savoir ce que coûtent les choses que la solution intérieure consistant à nommer moi, j'étais le patron d'EDF, j'avais une mission de régulation. C'était moi le régulateur d'EDF, avec cet avantage que j'avais sous la main tous les coups, je savais. Alors que maintenant qu'il est extérieur, il est obligé de se fier aux renseignements qu'il reçoit. Et je prends l'exemple de l'Angleterre, le premier s'est trompé complètement. Et nos collègues électriciens d'Outre-Manche ont fait tellement fortune que les gens d'EDF se sont dit, après tout, c'est peut-être intéressant.
Je peux ajouter encore que dans ce cas-là, c'est vrai, mais les régulateurs sont des hommes. D'abord, ils sont collégiaux, ce qui est peut-être une petite garantie. Et deuxièmement, leurs décisions ne sont pas définitives, elles sont susceptibles d'être attaquées devant des juges, cette fois, devant des juges. Et en l'espèce, d'ailleurs, c'est assez généralement le Conseil d'État, sauf dans les hypothèses où la loi a prévu que c'était une chambre de la Cour d'appel de Paris qui règle ces problèmes et qui va donc ensuite, avec une voie de recours possible devant la Cour de cassation, il y a donc un mécanisme juridictionnel et judiciaire particulier qui s'est mis en place pour justement éviter les erreurs que peuvent commettre les régulateurs. Mais on est en présence, avec le système qui se met en place aujourd'hui, même pour les télécoms, on est en présence d'organismes tout à fait nouveaux, mais qui sont apparentés au Conseil de la concurrence ou à l'actuelle autorité des règlements financiers depuis la suppression de la COB.
Nos deux invités dans l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui, M. Marcel Boiteux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et donc ancien président d'Électricité de France notamment, et puis M. Roland Drago, autre académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Drago qui, au titre de sa présidence de l'Académie en l'an 2000, a publié aux presses universitaires de France le rapport intitulé « Quel avenir pour les entreprises publiques ?» Nous continuons d'en parler dans un instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons donc le cours de notre émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Le thème « Quel avenir pour les entreprises publiques ?» Nous en parlons avec deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques, Roland Drago et Marcel Boiteux. Alors, Marcel Boiteux, je rappelle que vous avez présidé aux destinées de l'entreprise EDF, donc en tant que président de 1979 à 1987, mais auparavant vous étiez directeur général de l'entreprise, autrement dit le patron, le seul patron à bord, donc ce qui vous donne une grande expérience à la tête de l'opérateur Électricité de France pendant une bonne vingtaine d'années. Alors avec le recul, quel regard portez-vous sur ces années? Justement, vous dites aujourd'hui avec le même recul, ou vous dites-vous plutôt, effectivement, le statut de l'entreprise ne peut, ne pouvait qu'évoluer.
Oui, je pense qu'il faut prendre la question sur un plan plus global, car je regrette pour ma part qu'on ait traité rigoureusement de la même manière toutes les entreprises de réseau en se disant ben, on va dissocier le réseau et son emploi. Idée a priori naturelle, car la plupart d'entre nous, nous employons le réseau routier avec notre automobile et personne n'a jamais songé à nationaliser la circulation automobile pour optimiser l'emploi des autoroutes. Donc cette distinction apparaît tout à fait naturelle. Bon, elle n'est pas... Le cas de l'aviation est un peu spécial parce que ce n'est pas un réseau. Le réseau aérien, ce n'est pas un réseau. Ce qui est vraiment réseau, c'est les aéroports qui sont encore des monopoles, il faut bien le reconnaître, et difficile à gérer. Mais vous avez la SNCF. Dans le cas de la SNCF, il n'y a pas de problème de régulation tarifaire, je le répète. C'est la concurrence qui règle le niveau des tarifs, donc la SNCF ne peut pas abuser de sa clientèle. Un régulateur peut peut-être faire en sorte que cette pression de la concurrence soit aussi efficace que possible, mais il y a une régulation naturelle par la concurrence. Et donc le problème SNCF, ce n'est pas de dissocier tellement le rail et l'emploi des rails, parce que je crois que pour les wagons de voyageurs, c'est tout à fait déraisonnable, parce qu'en matière de voyageurs, il y a des problèmes de sécurité et de prévision des horaires qui impliquent qu'il y ait une certaine osmose entre les gens qui gèrent les ouvrages et qui assurent l'entretien, et les gens qui risquent d'avoir du retard ou des accidents quand ils prennent le train. Par contre, pour le fret, alors là, pour le fret, la concurrence. Mais on n'a pas besoin de créer une concurrence pour assurer la régulation de la SNCF, je le répète, c'est la concurrence du rail, de l'avion ou de la route qu'il fait. Ce qu'il faut, c'est une morale au déficit. Et moi, j'avais proposé de décomposer EDF comme je l'ai fait, décomposer la SNCF comme je l'ai fait EDF, en réseau de filiales et sous-filiales. Par exemple, la SNCF pourrait avoir des filiales qui seraient les grandes radiales qui partent de Paris, plus les quelques transversales, et puis les chevelus qu'on trouve au sein de ville. Et on dit à la SNCF, quelles sont les exploitations que vous voulez garder parce qu'elles sont rentables? Vous les prenez. Quelles sont celles? Les autres, on va les mettre aux enchères. Aux enchères, c'est-à-dire que quel est celui qui veut prendre avec la subvention la plus faible? La SNCF en gagnera beaucoup parce qu'elle connaît le métier, qu'elle a ses gares. Et puis ensuite, il y a ceux que personne ne veut prendre. Alors ou bien la commune va payer, ou bien se rend compte, ce sera beaucoup moins cher d'avoir un réseau d'autobus et on supprime le chemin de fer là où vraiment il coûte la peau du dos inutilement. Voyons quoi, la SNCF a les exploitations qu'elle a déclarées rentables par elle-même et celle qu'elle déclare rentable avec la subvention minimum reçue des collectivités. On y va. Au bout d'un an, déficit. On remet sur le marché toutes les tranches marginales pour savoir qui va l'emporter, puisque eux ont raté. Moyennant quoi, le personnel SNCF a cette idée que s'il ne travaille pas bien, si la SNCF ne gagne pas suffisamment sa vie, la SNCF peut un peu disparaître ailleurs. Il y a une morale dans le système. Car je répète, le problème SNCF, c'est pas le monopole. Ils n'ont pas de monopole du service rendu. Le problème, c'est que le déficit n'a pas de morale. Prenons l'électricité. Alors là, c'est tout à fait autre chose. En électricité, on peut pratiquement faire les tarifs qu'on veut. Le fait que les Allemands soient presque 30% plus chers que les France pour la clientèle courante, pas la toute petite parce qu'ils sont politiquement astucieux, ni la très grosse parce qu'il y a la concurrence internationale, mais tout le reste, 30 à 35 plus cher, 30 à 35 plus cher avant nous, c'est les réformes actuelles, montre que là, on a une liberté de tarif formidable. Et ça, il faut le juguler. Et pour juguler ça, eh bien, je pose le problème soit d'un régulateur extérieur, oui, ce qu'on fait, soit d'un régulateur intérieur.
Donc, à l'époque, vous pouviez déjà vous dire l'entreprise EDF doit évoluer inéluctablement.
Eh bien,
je parle de ça dans les années 80.
Je ne suis pas convaincu du tout. Moi, je pense, pour ma part, à vrai dire, qu'il y avait des problèmes pour le réseau anglais, qu'il y avait des problèmes pour le réseau allemand. Parce que vous savez, au début, quand les Anglais ont proposé de passer à la concurrence pour l'électricité, ça a été un non général. Tout le monde a dit, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Mais les Anglais sont des gens très, très, très efficaces, très puissants, très tenaces. Ils ont créé des colloques, en choisissant bien sûr les orateurs, et peu à peu s'est répandu l'idée qu'après tout, il fallait faire pour l'électricité ce qu'on faisait pour les autres. Et donc, on est passé à ce système concurrentiel qui est certainement bénéfique là où le courant était vraiment très cher, mais qui, d'après tout le monde, reconnaît qu'en France, il y a toute chance que la mise en œuvre de la concurrence coûte plus cher que les bénéfices de la compétition. Donc maintenant, on admet que les prix vont monter en France. Alors je me dis, mais alors pourquoi a-t-on fait tout ça si c'est pour que les prix montent? C'est une question qu'on peut se poser. On aurait pu laisser les Anglais se mettre en concurrence, puis c'était bon, laisser les Allemands en concurrence, laisser la France se débrouiller avec son réseau, et l'Espagnol. Alors on me dit, oui, mais il n'y aurait pas eu de marché européen. Même, il n'y a pas de marché, parce qu'il y a tellement peu de lignes aux frontières qu'on n'est pas vraiment dans un marché européen. Et comme on n'arrive pas à construire de lignes, les gens n'en veulent pas, c'est une illusion de parler du marché européen de l'électricité. Une illusion. Une large illusion, disons.
Alors, il y a dissociation du réseau et de son emploi, et puis la question des filiales également, Roland Drago.
Oui, il y a la question des filiales, mais auparavant, je pense qu'il faut revenir sur la question qui vient d'être abordée par M. Boiteux, en ce sens que la différence entre les chemins de fer et l'électricité est considérable. Dans des pays comme les États-Unis, il y a la concurrence en matière de chemin de fer, ça donne des résultats qui sont assez déplorables et qui aboutissent finalement souvent à des attitudes qui sont complètement anticoncurrentielles. Pour l'électricité, après tout, avant 1945, la France, avec le régime de la concession, il y avait des sociétés d'électricité qui étaient plus ou moins importantes, il y avait tout un partage. Je crois qu'on était déjà arrivé à une situation qui, évidemment, n'avait pas la cohérence d'une entreprise unique avec les problèmes qu'elle pose, mais qui, en tout cas, respectait les règles de concurrence et, par conséquent, aboutissait à des situations qui étaient vivables. Autrement dit, c'est lié à des phénomènes qui sont des phénomènes physiques ou des phénomènes industriels. Alors, quant aux filiales, c'est une technique. Alors là, M. Boiteux vient de prendre l'exemple de filiales à propos de chaque genre de distribution. Ça, je crois que ça peut se concevoir. La question n'est pas celle que je voulais poser. Je veux dire que les entreprises publiques, à partir de 1945, ont eu une politique de filialisation considérable allant au-delà de leur mission naturelle. Des filiales immobilières, des filiales financières, des filiales bancaires, et que sais-je encore, des filiales agricoles, etc.
De la diversification.
Il y a eu une diversification de l'activité de ces entreprises qui allait au-delà de leur mission essentielle. Si on les a nationalisées, si on en a fait des entreprises publiques, c'est parce que il y avait des motifs profonds et importants pour qu'elle soit créée de cette manière. Mais en revanche, la filialisation, d'abord, elle s'est faite de façon très souterraine, souvent, c'est-à-dire sans qu'il y ait de publicité, Et d'autre part, elle s'est faite dans des domaines qui étaient de plus en plus très lointains de l'activité principale de l'entreprise en France et ailleurs. J'ai vu des exemples extraordinaires de filiales d'entreprises publiques françaises en Amérique du Sud. Actuellement, on est heureux de les voir naître parce que les entreprises publiques sont devenues des entreprises privées. Mais à l'époque, c'était quand même assez anormal de voir la naissance de ces filiales. Et deuxièmement, elles naissaient sans aucun respect des règles juridiques. Je veux dire par là que le Parlement n'avait pas du tout à intervenir. C'était une politique propre à l'entreprise, alors qu'elle oubliait, dans ce cas, qu'elle était une entreprise publique et qu'elle devait, s'agissant des modalités principales de ses fonctions, être autorisée à le faire par une décision du Parlement. Il y a eu, M. Boiteux le connaît mieux que moi, vers les années 70, ce rapport qui a été fait par un inspecteur général des finances, le rapport Nora, sur l'avenir des entreprises publiques et sur les deux catégories. Celles qui étaient commandées par le besoin de services publics et les autres. Et le rapport Nora faisait la distinction entre l'une et l'autre. Et il a abordé ce problème de la filialisation qui avait pris un tournant tout à fait excessif. Et je voudrais rappeler ce rapport qui a été un tournant dans la vie des entreprises publiques à cette époque.
Marcel Boiteux, est-ce que vous partagez les propos de Roland Drago?
Oui, tout à fait. Je pense que le rapport Nora a constitué pour les entreprises publiques une innovation. EDF est redevenue une entreprise grâce à Nora. Avant, ça devenait peu à peu un des moments de l'État. En ce qui concerne les filages, je voulais dire que moi, je pensais à la décomposition interne pour gérer et pas à la diversification. C'est clair. D'autre part, je viens de faire une sortie tout à l'heure sur le fait que, au fond, ce qu'on a fait était idiot en ce qui concerne la mise en concurrence partout. Je crois effectivement que c'est idiot pour la France, mais c'est fait. Si jamais
c'est inéluctable maintenant.
Des agents d'EDF qui m'écoutent, c'est fait. Donc il faut y aller le mieux possible. Il ne faut pas y aller à reculons. On ne peut pas revenir. On y est allé. Peut-être qu'avec le temps, on va s'apercevoir progressivement qu'il faut mettre autour de régulateurs des services tellement importants que ça devient un peu à peu une direction générale et qu'on va réinventer EDF. Mais il faudra au moins 15 ou 20 ans. Et donc,
on va faire un autre service public au sens des services.
Il faudra par le biais de la régulation, puisqu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et notamment, on peut se poser la question de savoir si pour les investissements à long terme, il y aura des gens assez courageux pour investir dans des centrales qui marchent une fois tous les 20 ans. Oui. Ce qui n'est pas vraiment dans la nature du marché.
Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Boiteux, du déficit qui n'a pas de morale, mais ça, c'est pas le propre d'une entreprise saine. Une entreprise saine, généralement, dans le secteur privé, cherche à faire des profits, enfin, rentabilité maximale. Et là, quand on entend le déficit n'a pas de morale, c'est grave, non, du point de vue de la gestion de l'entreprise publique même.
Non, mais je crois qu'il y a certains secteurs dans lesquels l'électricité... On peut être déficitaire si l'État vous empêche d'avoir des tarifs raisonnables. Rappelez-vous que du temps de l'inflation, quand le franc glissait de 10 à 12%, et on se battait pour avoir 4 ou 5% péniblement, qui impliquait une grosse productivité, et les années où on n'avait pas de hausse, on était en déficit. Et donc là, ce n'est pas la gestion qui était en cause, c'était le fait que certaines années, la direction du Trésor l'emportait sur la direction du budget. Auquel cas, on avait des hausses parce que ça permettait d'emprunter un peu moins pour régler les travaux. Et les années où c'était le contraire, à ce moment-là, on n'avait pas de hausse et on avait des déficits.
C'était déjà l'entreprise citoyenne.
Et la presse, innocemment, disait « Ah, mauvaise gestion cette année ». Non, ça veut dire que cette année-là, le budget l'emporter sur le trésor. Mais c'est un autre problème.
L'entreprise publique, il est temps malheureusement de conclure, mais cette entreprise publique a été affublée de bien des mots. Je rappelle que cette émission était consacrée à l'avenir. Quel avenir pour les entreprises publiques? Donc il y a toujours des mots, on trouve des mots à tout. Gestion laxiste, investissement inconsidéré, mépris du client, des mots que l'ancien président d'EDF ne peut que rejeter, je présume, non?
Moi, c'est moi qui ai écrit ce paragraphe. Donc, vous l'avez copié où?
Dans ce rapport. L'ai lu, je vous lis dans ce rapport.
Non, mais je crois effectivement que la gestion privée, en général, est plus efficace et il y a plus d'émulation. Et je crois donc, quand même, le meilleur régulateur, quand on le peut, c'est la concurrence. J'en suis convaincu. Concurrence qu'il faut surveiller. Il y a des excès dans la concurrence qui consistent d'ailleurs à reprendre un peu des éléments de monopole par un biais ou par un autre, ou maintenant des excès dans certaines rémunérations qui ne sont pas du tout estimables. Mais je crois quand même qu'un système concurrentiel convenablement surveillé est bien plus efficace qu'un système de gestion publique. Cela dit, sauf dans des secteurs où, je le répète, comme il y a monopole naturel et non concurrencé, il faut maintenir un impôt et donc trouver un autre système que la concurrence pour le réguler.
Eh bien voilà, résumé votre sentiment et le contenu de votre participation à cette émission, Marcel Boiteux. Conclusion, Roland Drago, sur ce point justement.
Alors voyez-vous, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marcel Boiteux sur le problème de du monopole tel qu'il le définit. L'inconvénient des entreprises publiques, c'est celui que ont connu les pays communistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les entreprises publiques peuvent devenir des abbayes où on va caser tous ses amis. Elles peuvent devenir aussi des États dans l'État. Elles peuvent aussi se placer dans la dépendance de l'administration et devenir en quelque sorte des exécutants des décisions de l'autorité politique. La direction du Trésor, vous avez parlé de la direction du Trésor à cette époque-là, a joué un rôle qui n'était pas un rôle de régulateur, qui était un rôle, peut-être un rôle de régulateur de façon exceptionnelle, mais qui était un rôle d'autorité pour mettre les entreprises publiques au service de l'État. Et c'est là que la renaissance de la concurrence peut justement éviter ces défaillances, ces déviances qui se sont produites à cette époque.
Eh bien, finalement, vous vous retrouvez. Et pour compléter cette réflexion entamée aujourd'hui à sa modeste part par Canal Academy, eh bien, je renvoie à la lecture de ce rapport publié donc aux Presses universitaires de France. Quel avenir pour les entreprises publiques? Un rapport publié donc par l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Marcel Boiteux, monsieur Roland Drago, je vous remercie infiniment pour votre participation et je vous dis à très bientôt sur Canal Academy.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.